France Inter.
Écoutez, un journaliste qui n'est pas curieux et gourmand, c'est
et modeste.
Oui, mais enfin bon, la modestie, oui. Oui, mais écoutez, quand vous avez fréquenté des grands écrivains, comment ne pas être modeste ? Écoutez, bon, franchement, vous êtes vous retrouvez face à Lévi-Strauss, à Yourcenar, à Duras, à Nabokov, etc. Comment ne pas être modeste ? Enfin, je veux dire, ou alors, vous êtes un con, là, c'est pas possible. Non, non, il faut être modeste quand même. On n'est rien, nous. Moi, je suis un passeur, j'ai eu la chance, une chance inouïe. Mais quelle chance d'interviewer des écrivains comme ceux-ci. Mais quelle chance extraordinaire. Je bénis le ciel et je remercie Dieu s'il existe de m'avoir accordé ce privilège extraordinaire de rencontrer ces écrivains exceptionnels. Donc modeste, évidemment. Mais la gourmandise, la curiosité, le jour où je les perdrai, je serais mort, tout simplement.
Bernard Pivot, en 2012, au micro de Laure Adler sur France Culture. Le journaliste est décédé avant-hier, le 6 mai, a annoncé sa fille Cécile Pivot à l'AFP. Sa disparition survient quelques jours après celle de Paul Auster. Ce mois de mai commence bien tristement. L'homme qui a fait lire des millions de téléspectateurs avec son émission littéraire culte Apostrophe, qu'il anima pendant 15 ans, avait confié dans une interview de 2017 qu'il aimerait mourir en train de lire un livre. Et pourtant dans son livre « Les mots de ma vie », celui qui lisait 10 heures par jour pour préparer ses émissions s'exclamait « putain de livre », constatant que ces derniers lui avaient fait quelque peu négliger sa famille. Il commença sa carrière de journaliste comme critique littéraire au Figaro littéraire en 58, puis au Figaro en 71. Il signe ensuite des chroniques radiophoniques, puis anime Apostrophe à partir de 75, année où il crée avec Jean-Louis Servan-Schreiber le magazine Lire, dont il deviendra le directeur de la rédaction. Auteur d'une quinzaine de livres, dont un roman et une autofiction romancée, il animera par la suite Bouillon de Culture pendant une dizaine d'années, émission ouverte à tous les arts. On pouvait aussi lire ses critiques littéraires dans le Journal du Dimanche. Il a souvent rendu hommage à ses parents qui tenaient une épicerie, en revenant notamment sur l'épisode de ses 5 ans, quand sa mère l'emmena dans le Beaujolais pour fuir la guerre, son père étant fait prisonnier entre 41 et 45. Bernard Pivot apprit alors à lire avec les deux livres qu'il possédait, un recueil des fables de La Fontaine et un petit Larousse. Je l'avais reçu dans Remède à la mélancolie en 2016, il fut absolument délicieux. Il évoqua son rapport au spleen, son goût pour le football, la fantaisie et la beauté des choses. On entendra un morceau de cet entretien en deuxième partie d'émission. Bonsoir et bienvenue dans Grand Canal.
France Inter, Grand Canal, Eva Bester.
Pour cet hommage, nous sommes avec l'écrivain Daniel Pénac, la journaliste du Monde Ariane Chemin et le linguiste et professeur honoraire au Collège de France Claude Agège. Il y aura aussi une intervention de l'écrivain Jean-Paul Dubois. Bonsoir à tous.
Bonsoir.
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 Daniel Pénac, comme Bernard Pivot, mais d'une autre manière, vous avez beaucoup œuvré pour la lecture, dont vous avez plusieurs fois fait l'éloge, notamment dans votre ouvrage Comme un roman. Pensez-vous qu'on puisse donner autant envie de lire que Bernard Pivot l'a fait à la télévision? Et comment y parvenait-il selon vous?
Ah là, c'est difficile de faire mieux, en l'occurrence. Alors, comment y parvenait-il? Oh, c'est l'inventeur de l'ingénuité. Il était absolument tout sauf ingénu. Il créait des émissions avec, de temps en temps, des risques de duel, qui faisaient d'Apostrophe une émission que les gens allaient aussi voir par curiosité, simplement pour voir ce qu'il s'y passait. Alors, il y a ça. Là, ça, c'est le travail du journaliste. Et puis, il a, en invitant les gens qu'il invitait, transmis tout ce qu'il a aimé lire. Quand il invite Yankelevitch, il a lu Yankelevitch. Ça, on ne pouvait pas le prendre à... Donc, c'est une transmission, quoi. C'est à la fois une transmission, à la fois une mise en scène d'une sorte de dramaturgie littéraire avec des gens qui s'engueulaient quelquefois, etc. Et puis, un sens des personnes. Le plateau était souvent composé avec... Bref, il était à la fois gourmand, malin, généreux dans la transmission, bref, tout ça.
Ce bref, le premier bref que vous avez émis, Daniel Pénac, était lourd de sens sur la composition des plateaux. Vous avez été invité, d'ailleurs. Oui, comment oui. Ça se passait, une émission d'Apostrophe?
Ben, pour celui qui était invité, moi, je suis allé à la fin, c'était dans les années 90. C'était pour La Petite Marchande de Prose, et elle est sortie dans les années 80. J'avais une trouille bleue. j'étais très très c'était la première fois que j'allais à la télévision. J'étais très intimidé par le fait même. Je me disais, on doit pas pouvoir réfléchir. Ça doit aller, ça va tellement vite qu'on doit pas pouvoir réfléchir. Et puis bon, en réalité, ça s'est passé. Ça s'est passé assez naturellement, si je puis dire. Mais j'avais la trouille.
Daniel Pénac, vous avez souvent raconté votre scolarité de cancre, vous qui êtes devenu finalement professeur pendant très longtemps. Vous dites avoir été sauvé par la lecture. Bernard Pivot fut membre et président du prix Goncourt et aussi le créateur du championnat d'orthographe intitulé plus tard les 10 Codes d'Or. Et quand on parle de lui, on pense évidemment à ses dictées qu'il fit de 1985 à 2005. Est-ce que vous pensez que ça a permis des progrès chez certains? Je vous pose la question, d'autant plus que je sais que l'apprentissage de la lecture et de l'écriture vous a posé certains problèmes.
Mais avec ses dictées, il a dédramatisé l'exercice. De toute façon, elles étaient tellement difficiles que même Monsieur Agège, peut-être, y aurait fait une ou deux fautes. Et donc, et ça dédramatisait, ça en faisait un jeu, ce qui était assez marrant. Moi, je n'en ai jamais... J'ai toujours eu 20 sur 20, parce que je ne les ai jamais faites.
Ah oui, c'est la
donc,
meilleure
j'ai
façon.
J'ai fait aucune faute.
Il n'y a aucune espèce de raison pour que,
ah, que c'est dommage.
L'espèce humaine ait une seule langue.
Ah, que c'est dommage.
Ah oui, parce que... Vous le répétez à merveille.
Oui, oui. Très, vous savez pourquoi?
Vous
avez simplement
vu
sur le plan de l'humour. Parce que l'humour ne passe pas à une frontière. Mmh. Et c'est quand même désolant. Parce que l'humour, c'est quand même...
Il n'est pas traduisible.
C'est très dommage. Parce que ça n'enlèverait pas la force d'une langue, de la langue maternelle.
La poésie.
Et si on avait une langue parallèle, c'est-à-dire une langue universelle, on pourrait un peu jouer aussi là. L'esprit pourrait jouer par le truchement de cette langue.
J'ai l'impression que c'est une pure chimère. Il ne peut pas y avoir de langue
universelle. Désolé. J'ai caché ma soirée. Je ne vous en veux pas, mais quand même.
Claude Agège, c'est vous qu'on entend en 1985 sur le plateau d'Apostrophe face à Raymond Devos. L'historienne Mona Ozouf loue chez Bernard Pivot le doux mélange d'érudition et de vulgarisation. C'est ce côté érudit et populaire qui lui a valu son succès, certes, mais aussi quelques critiques comme celle de Deleuze ou de Fumaroli. Et vous, vous les avez contredits ce soir de 1985 en étant invité pour votre livre « L'homme de parole, contribution linguistique aux sciences humaines ». Est-ce que vous pouvez raconter cette soirée ?
Eh bien, je ne m'attendais pas à être confronté à un clown ou à quelqu'un qui faisait profession de clownerie. Et en particulier, ce n'est que un peu après, en en prenant conscience, que je me suis dit, au fond, ce que j'ai incarné, ce que nous avons incarné tous les deux, c'est le dialogue du professeur et du clown. Ce n'est pas un dialogue courant, mais il s'agit d'un professeur, il s'agit d'un clown ouvert à tout, et d'un professeur également ouvert à tout. Et donc ce dialogue, finalement, devenait, par une sorte de magie de la situation, tout à fait inédite, quelque chose de miraculeux, de tout à fait étonnant. Aujourd'hui, c'est-à-dire de nombreuses années, de nombreuses décennies plus tard, j'en suis toujours, avec une sorte de fraîcheur, si je puis dire, toujours ému et étonné, et je souhaiterais que ce type de rencontre soit réédité.
Quel souvenir gardez-vous des émissions de Bernard Pivot? Vous avez été invité plusieurs fois et de vos rencontres avec lui.
Le personnage était très particulier, car derrière la profession qu'il faisait d'ouverture à la littérature, de service de l'œuvre littéraire, c'était un homme très simple. Peut-être qu'il cultivait une simplicité artificielle, mais il paraissait très simple, et en particulier, il ne répondait pas à la figure de l'intellectuel, souvent trop conscient de son appartenance à une sorte d'élite, qu'il a souvent lui-même forgée et définie, sans qu'elle existe vraiment. Et donc, il réussissait à incarner le fait littéraire en étant très représentatif du français moyen. C'est ça que je retiens de lui, le mariage, qui peut donner un divorce dans certains cas, mais qui dans son cas donnait un mariage d'amour entre le français moyen le plus ordinaire et l'homme de lettres.
Pivot a dit dans une interview en 2017 au sujet de la condescendance dont il faisait parfois l'objet « On voyait chez moi à Lévi-Strauss, sur Senard, il y avait des articles sur moi qui disaient « Mais qui est ce type qui n'a pas fait d'études littéraires, qui boit du Beaujolais et qui regarde des matchs de foot ?» Et c'est vers vous que je me tourne, Ariane Chemin, pour tenter de répondre à cette question. Vous l'avez connu, il vous a aidé, paraît-il, pour vos enquêtes littéraires sur des écrivains comme Houellebecq ou Kundera. Est-ce que vous pouvez nous raconter les rapports que vous entreteniez et ce que vous perceviez de l'homme ?
Oui, j'étais très intimidée quand je connaissais pas extrêmement bien, mais j'étais le voir souvent parce que je me lançais dans des enquêtes littéraires, effectivement, sur Michel Houellebecq, sur Milan Kundera, sur Romain Gary, et j'ai commencé à aller le voir pour ces enquêtes. Et ce que j'ai adoré, c'est sa gourmandise, effectivement, on en a parlé, et son appétit pour ses vies d'écrivain, ce qui n'était pas forcément le cas des critiques littéraires, et ce qui n'est pas le cas forcément de la critique littéraire en France, autant dans les pays anglo-saxons, en Italie, etc., on aime raconter la vie des écrivains. En France, c'est le poids de la querelle Sainte-Beuve contre Sainte-Beuve, ça reste un petit peu tabou. Et lui, il adorait ça. Et donc, je dois dire qu'il était extrêmement généreux, partageux. Et en fait, il était pour moi d'abord journaliste, avant d'être critique littéraire. Et d'ailleurs, il m'avait donné un livre qu'il avait écrit il y a très longtemps. Oui, mais quelle est la question ?
Que vous avez apporté.
Oui, qui était un roman à peine à clé, parce qu'évidemment, le héros principal, Adam Hitch, c'est évidemment Bernard Pivot.
Et alors, de questionnite aiguë.
Il raconte effectivement qu'il souffre d'une grave maladie, un TOC, une questionnite aiguë. Il ne peut pas s'empêcher de poser des questions, c'est quand même la plus grande qualité d'un journaliste. Et il dit d'ailleurs, à la fin, avec son crâne qui se dégarnissait légèrement, « Ma tête commençait à ressembler elle-même à un point d'interrogation. »
Oui, ça, je crois que sa première émission s'appelait « Ouvrez les guillemets ».
Ben voilà.
Sur votre Twitter, Ariane Chemin, hier, vous avez écrit « Bernard Pivot avait un grand regret, il s'appelait Romain Gary ».
Oui, c'est vrai, parce que j'avais voulu lui poser des questions sur Romain Gary. J'avais été étonnée qu'il le reçoive que une ou deux fois extrêmement rapidement à la fin de la vie de Romain Gary, au milieu de tas d'autres personnes sur des sujets thématiques. Il me dit, c'est mon plus grand regret, et j'ai trouvé au fond cette espèce de modestie admirable. Il me dit, je m'en remets pas, je l'ai raté, je ne l'ai pas compris, je ne l'ai pas vu, comme s'il avait été un peu la victime de son époque, où Romain Gary, c'était l'écrivain gaulliste, qui n'était pas tout à fait à la mode dans les années 60, c'était l'homme qui admirait De Gaulle, et on était évidemment en plein nouveau roman, en pleine littérature engagée. Et c'était vraiment un regret douloureux pour lui. Il me disait, mais comment j'ai pu le rater ?
Et vous qui avez écrit sur Kundera, il faut dire qu'il a eu l'une des dernières interviews de Kundera à la télévision.
La dernière, en 1984, rendue célèbre par une photo où Kundera, traqué par les photographes au début de l'émission, pose ses mains sur ses yeux. Et Bernard Pivot était le seul à remarquer que très tard dans la nuit, avant de s'en aller, Milan Kundera avait remarqué un grand photographe qui l'attendait à la sortie du studio depuis des heures. Et là, il avait accepté de poser et de sourire.
« Je ne suis pas un homme de pouvoir, mais un homme d'influence », disait Bernard Pivot, ce qui lui a valu de la part de Régis Debray en 81 l'expression « la dictature d'un seul homme ». Ils devinrent pourtant amis plus tard à l'Académie Goncourt. Question autour de la table, est-ce que vous pensez que sa disparition est celle d'un certain monde littéraire ? Daniel Pénac.
Non mais c'était odieux ce qu'on lui a fait dans ces années 90, ce qu'a fait Régis Debray. Bon, ils se sont rabibochés ensuite. Mais ça, c'est très français. Son émission marchait, il faisait lire tout le monde, et alors on l'a taxé de populisme, de commercialisme, alors que ce type a libéré absolument la lecture. Il y avait d'autres gens avant lui. Il y avait Pierre Dumayet et Pierre Desgros, avec lecture pour tous, puis il y en a eu après. Après, il y a eu Bernard Rapp, François Bunel, etc., Trappenard. Donc, mais tous ces gens-là sont le produit du désir de cet homme de faire lire tout le monde. Et on lui a évidemment cassé les pieds en disant qu'il commercialisait le bouquin, que c'était honteux. Moi, je trouve que tant de millions de Français aient pu tel vendredi se trouver devant Lévi-Strauss, tel vendredi se trouver devant Jean Kelevitch, tel vendredi se trouver devant Kundera, un cadeau inouï. Et qu'on lui ait cassé les pieds, c'est très symptomatique de l'esprit français prétendu galonné intellectuellement. C'est de chez nous, ça. Apparemment, c'est notre péché mignon de casser les pieds à ceux qui rendent la littérature populaire.
Pendant l'été où je t'ai rencontré par magie, les nuits sacrées où je t'ai raconté toute ma vie, c'est là qu'on s'est aimé pour la première fois. Amis à partager. Toi suffit de faire la paix et ne plus détester ce que je suis. C'est là qu'on s'est aimé pour la première fois. C'est en été qu'après tellement d'années, j'ai compris. Se faisait paradis. C'est là qu'on s'est aimé pour la première fois.
Le morceau June Perséide.
Grand Canal. Eva Bester sur France Inter.
Milan Kundera, je vous remercie d'être venu ce soir. Marguerite Duras.
Excusez-moi, Alexandre Solzhenitsyn.
Georges Luis Borges. Bukowski, shut up.
Bukowski, je vais te foutre mon poing dans la gueule.
Doucement, Kavana, doucement.
Oh, c'est pas non. Vrai.
Alors, le questionnaire de fin d'émission, c'est 10 questions sont posées à tous les invités de référence. Votre mot préféré, Guy Bedos ?
Amour.
Et le mot que vous détestez, Woody Allen ?
Hello.
Votre drogue favorite ? Oh, bah alors là, sœur Emmanuel.
L'asti spumante.
Umberto Eco. Le son, le bruit que vous aimez ?
Le silence.
Votre juron, gros mot ou blasphème favori ?
Espèce de petite fiante.
Homme ou femme pour illustrer un nouveau billet de banque ?
Cain.
Le métier, Fanny Ardant, que vous n'auriez pas aimé faire ?
Bourreau.
Robert Banater. La plante, l'arbre ou l'animal dans lequel vous aimeriez être réincarné ?
Le renard, parce qu'il veut toujours être libre.
Et si Dieu existe, qu'aimeriez-vous, après votre mort, l'entendre vous dire à vous, Alain Delon ?
Alors, je vais vous le dire. Puisque tel est ton plus grand et ton plus profond regret, je le sais. Je te mène à ton père et ta mère, afin que pour la première fois, enfin, tu les vois ensemble.
Merci à tous, et comme je vous l'avais bien dit, finalement j'avais eu raison d'intituler cette émission « Les écrivains sont de drôles de zig ». Bonsoir à tous, à la semaine prochaine.
Florilège de questions de Bernard Pivot, suivi du concerto pour piano numéro 1 de Rachmaninov qui constituait le générique d'Apostrophe, dont le premier numéro fut diffusé le 10 janvier 75. Il a animé cette émission pendant 15 ans. Ce furent Marcel Julien et Jacques Chancel à la création d'Antenne 2 qui vinrent le chercher au Figaro littéraire à l'époque. Le titre fut inspiré par Françoise Giroux que Pivot entendit en 75 dire dans une émission de télévision « Monsieur, vous m'avez apostrophé ». Parmi les 724 numéros diffusés les vendredis soirs sur Antenne 2, avec les moments en mémorable, il y en a eu plein, mais en dehors de Bukowski qui quitte le plateau sous les insultes de Kavana ou Nabokov qui lit ses réponses en toute discrétion, que retenez-vous autour de la table, Claude Agege ?
Le moment le plus marquant est celui où je suis apparu moi-même. Dirais-je avec une rare modestie. Mais la raison en est très simple, c'est que, étant confronté donc à Raymond Devos, j'étais surexcité et particulièrement fécond parce que le personnage avait quelque chose d'inspirant.
Ariane Chemin.
Je me disais récemment qu'on l'a jamais vu déprimé, où il avait toujours l'œil qui frisait, Bernard Pivot, la bouche gourmande. Et ce qui me frappe le plus, parce que maintenant on en revoit beaucoup d'émissions, ne serait-ce que sur le site de l'INA, etc., c'est que ça raconte un bout de France, un morceau de France, les années 80, les années 90, ne serait-ce que parce que tout le monde picole, clope, etc., ça paraît... voilà. Et puis aussi parce qu'il y a des choses qui se sont passées sur ce plateau qui ne se passeraient plus aujourd'hui. C'est vrai qu'un Gabriel Matzneff qui vient sur le plateau d'Apostrophe, ça n'est plus pensable aujourd'hui. Non. Donc ça raconte un morceau de France.
Et d'ailleurs, Bernard Pivot avait réagi à cela après, avec les critiques qui lui sont tombées dessus, évidemment,
oui,
des années
regretté.
Plus tard.
Oui, il avait regretté.
Daniel Pénac, hors antenne, vous m'avez raconté une anecdote sur la générosité de Bernard Pivot.
Oui, un jour, il devait m'interroger pour m'interviewer pour un bouquin, mais j'étais en train d'en lire un qui me plaisait beaucoup, qui était Balzac et la petite tailleuse chinoise de l'écrivain chinois, Dai Sijie. Et vous savez qu'il ne préparait rien, on ne se consultait pas avant. Et sur le plateau, j'ai dit, on ne pourrait pas dire deux mots, je suis en train de dire ça, c'est vachement bien. Et oui, tout de suite, il a dit, mais bien sûr, d'une espèce de générosité comme ça, paf, spontanée, même si ça déséquilibrait un peu son émission.
Ariane Chemin, quel homme était-il en amitié, celui qui disait ne s'être jamais lié d'amitié avec les écrivains qui le recevaient et qui avait dit ceci au Nouvel Obs en 2019 « Je me suis défilé ». Il est vrai qu'être réveillée à 2h du matin par Marguerite Duras, qui avait éprouvé l'amical besoin de me lire au téléphone le texte qu'elle venait de terminer, ne m'a pas paru être une initiative à encourager.
Moi, je ne me prévaut d'aucune amitié avec Bernard Pivot. J'allais le voir comme une journaliste un peu intimidée, qui allait voir ce qui ressemblait à un maître. Et j'étais la questionneuse compulsive. C'était moi qui avais le toc et qui posais 1000 questions. Mais il était très abordable, il était partageux. Et c'est toujours très agréable de raconter des gens qui vous disent, qui vous encouragent, qui vous livrent des anecdotes, qui réfléchissent, qui vous rappellent pour dire « j'ai pensé à quelque chose ». C'est ça que j'ai aimé, mais je l'ai vu vraiment comme un journaliste. Et c'est pour ça que j'ai aimé ce roman, qui n'est pas forcément le meilleur roman du monde, mais je l'ai trouvé très très drôle. Il dit d'ailleurs, mon héros, le héros de mon roman, qui s'appelle Adam Hitch, est beaucoup plus drôle que moi.
Bernard Pivot avait aussi la réputation d'être indépendant par rapport aux pressions que pouvaient exercer les maisons d'édition. Claude Agege, votre premier passage avec le livre de linguistique assez pointu publié chez Fayard par Odile Jacob juste avant qu'elle ne fonde sa maison, peut en être une preuve.
En s'éprenant d'ouvrages qui quelquefois n'étaient pas tellement connus, soit qu'ils appartinssent à un domaine très confidentiel, soit qu'ils fussent des ouvrages trop techniques pour jouir d'une véritable diffusion, eh bien, ils servaient la littérature et ils le faisaient. On peut dire, à propos de l'amitié qu'on peut nouer avec Bernard Pivot, qu'on pouvait nouer avec lui, eh bien, il ne se préoccupait guère de nouer des liens d'amitié avec les gens qu'il invitait. Il faisait beaucoup mieux que l'amitié. Il inventait des gens peu connus. Il consacrait des gens connus, mais pas assez. Et par conséquent, le devoir d'amitié qu'il rendait, c'était un devoir, bien plus que d'amitié, d'amour pour le fait littéraire.
Et d'ailleurs, son dernier livre s'appelait « Amis, chers amis » et parlait d'amitié.
Votre mot préféré ?
Aujourd'hui, avec une apostrophe au milieu.
Votre drogue favorite ?
Alors, ma drogue favorite, moi, c'est la lecture des journaux en général et de l'équipe en particulier.
Bon. Le son, le bruit que vous aimez ?
C'est le son très discret des pages que je tourne en lisant un livre, ou le son aussi discret du stylo sur la feuille.
Votre juron, gros mot ou blasphème favori ?
Oh putain, oh putain, oh putain ! Toujours trois fois.
Le métier que vous n'auriez pas aimé faire ?
Président de France Télévisions ou directeur d'une chaîne du service public.
Très bien. Très bien. Enfin, si Dieu existe, qu'aimeriez-vous, après votre mort, l'entendre vous dire ?
Alors, Mr. Pivot ! Oui, parce que Dieu a d'abord parlé latin, hébreu, arabe, puis après il a parlé français, maintenant il parle anglais, évidemment. Oui. Donc, alors, Mr. Pivot, how do you do ? Pas terrible, I am sorry, my God, but I don't speak English. Ah, mais c'est vrai que vous ne parlez pas anglais. Il parle français, évidemment, Dieu aussi. Ah, c'est vrai que vous ne parlez pas anglais. Eh bien, vous avez toute l'éternité devant vous pour apprendre l'anglais. Et je vais vous donner un très bon professeur. S'il vous plaît, allez me chercher Sir William. Shakespeare, of course.
Là, on entend bien son humour à Bernard Pivot, interviewé par Jean d'Ormesson dans le dernier Bouillon de Culture en 2001, avec le fameux questionnaire qu'il posait à ses invités en fin d'émission. Daniel Pennac, il vous l'a posé, ce questionnaire ?
Non, mais un jour, on déjeunait ensemble, il me dit « Alors, qu'est-ce que tu demanderais à Dieu ?» En arrivant, et je lui avais répondu, Pivot est arrivé, il est venu avec sa cave.
Oui, car il est grand amateur de vin.
Voilà, non, j'ai pas répondu au questionnaire de Proust, mais juste à ce déjeuner, on a rigolé sur ce petit détail de nos arrivées. Maintenant, on peut y aller, quoi, il est là, ça va.
Quel homme était-il pour vous ?
Gourmand.
Gourmand, c'est le mot qui revient dans votre vraiment, bouche aussi, Ariane
oui,
Chemin.
C'est ce que disait, oui, vraiment gourmand, curieux, quoi. Et d'une curiosité généreuse, curieux de quelque chose, de découvrir des choses qu'il allait lui-même immédiatement partager, au fond.
Nous avons téléphoné à Jean-Paul Dubois juste avant cette émission. Jean-Paul Dubois, bonsoir.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous par téléphone.
C'est normal.
La première de vos rencontres avec Bernard Pivot, c'était en 1987 sur le plateau d'Apostrophe. Vous étiez invité pour votre livre « Éloge du gaucher dans un monde manchot ». Et 32 ans plus tard, c'est lui qui vous a remis le Goncourt en novembre 2019 pour votre ouvrage « Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon ». Quelques semaines avant de quitter la présidence du jury, qu'avez-vous perçu de lui lors de ces deux rencontres ?
La première, rien, parce que j'étais tellement timidé, j'étais un gamin, c'était mon premier livre. Donc j'étais très très mal à l'aise, très embarrassé. La seconde a été formidable, non pas à cause du prix, mais parce qu'il a fait quelque chose ce jour-là qui dénote l'homme qu'il pouvait être. C'est-à-dire que quand je suis arrivé, mal à l'aise comme pratiquement tous les jours, il m'a pris par le bras, il m'a escorté comme ça amicalement et il m'a amené à l'écart du monde qui était là, dans un petit coin. Il a mis la main dans sa poche, il a sorti son téléphone, il a appuyé sur une touche, il m'a dit « vous allez voir » avec ce sourire un peu malicieux de gosse qu'il pouvait avoir. Et il m'a mis sous les yeux, en me tenant toujours par le bras, sans me lâcher, la vidéo de ma première émission avec lui à Apostrophe. Et ce geste-là a bouleversé ma journée. Ça a été le moment qui a sauvé ma journée, parce que c'est une journée où on est plutôt mal à l'aise, où rien n'est normal. Et avoir cet homme à côté qui fait ce geste et qui a été adorable, mais vraiment d'une gentillesse. Il y avait une humanité, une douceur là-dedans. C'est le moment de ma journée, ça.
Qu'est-ce que ça vous fait de savoir que celui qui écrivait dans le JDD en 2019 à votre sujet, que les romanciers étaient ceux qui savaient ajouter un peu de comédie et de tragédie à nos existences, qu'ils étaient des magiciens et que Jean-Paul Dubois était l'un des meilleurs? Qu'est-ce que ça vous fait, Jean-Paul Dubois, de savoir que votre livre, L'origine des larmes, le dernier livre, est l'une des dernières lectures de Bernard Pivot?
J'ai appris ça hier et je trouve c'est très embarrassant. C'est quelque chose. Je suis extrêmement touché qu'il ait accepté d'avoir ce livre avec lui peu de temps avant sa mort. Mais c'est pas quelque chose qui fait plaisir, quoi. Ni qui rend fier ou quoi que ce soit. Je trouve ça triste. Je préférerais qu'il l'ait pas lu et qu'il ait à le lire. Voilà. C'est la seule chose que je peux dire. Mais c'est quelqu'un qui m'a touché. Voilà. C'est quelqu'un qui a été toujours d'une grande douceur, d'une bienveillance avec moi, et je crois qu'il l'était avec beaucoup de gens aussi. C'est quelqu'un à qui je dois quelque chose. Je dois énormément, notamment d'avoir rendu magnifique une journée du Goncourt qui s'avérait embarrassante.
Eh bien, je vous remercie beaucoup, Jean-Paul Dubois.
C'est moi. Au revoir.
Au revoir. Claude Agege, je vous pose la question en premier. Qu'allez-vous faire aujourd'hui pour honorer la mémoire de Bernard Pivot, ou honorer le fait que nous soyons en vie autour de cette table?
Eh bien, je vais tout simplement me mettre à ma table de travail et essayer de composer une sorte de couplet d'hommage dans lequel je lui dis ce que je lui dois. Et notamment, il m'a fait passer d'une relative obscurité à une toute relative notoriété, parce que, comme on l'a souligné à l'instant, sa générosité exprimait chez les gens, chez ses interlocuteurs, ce qu'ils avaient de meilleur et notamment les choses qu'ils cachaient. Donc c'était à certains égards un révélateur. Il avait une aptitude chimique extraordinaire de révéler chez les gens ce qu'il y avait chez eux. C'est ce que je retiens de plus remarquable chez lui.
Merci beaucoup. Ariane Chemin.
Peut-être que vous me prenez de court, mais je demanderai aux auditeurs de France Inter d'essayer de répondre à une question lancinante que se posait Bernard Pivot et qu'il pose dans ce fameux livre. Il voulait absolument savoir si il était vrai qu'au cours de sa dernière réussite en 1970, le général de Gaulle, avant sa rupture d'anévrisme, avait réellement retourné une carte qui était un joker. Est-ce que c'est vrai?
Eh bien, écoutez, l'enquête commence. Daniel Pénac.
Moi, ce soir, je vais rentrer, je vais revoir le film de Pierre Assouline sur lui.
Qui était
que j'ai vu hier. C'est pour ça que je sais des petites choses aujourd'hui. Et je vais revoir ce film pour revoir Pivot pendant une heure et demie.
Un jour, François Bunel a demandé à Bernard Pivot sur le plateau de la Grande Librairie comment il souhaiterait mourir. Et l'ancien animateur d'Apostrophe avait répondu en lisant Paul-Louis Courier, qui était censé être un de ses écrivains préférés, La Fontaine ou Giono, tout en écoutant Mozart. Eh bien, on ne vous dérangera pas, cher Bernard Pivot, mais on vous lira et l'on reverra vos interviews. Et peut-être certains d'entre nous liront Paul-Louis Courier, La Fontaine ou Giono pour vous rendre hommage. Merci Claude Agege.
T'en prie.
Merci Ariane Chemin.
Merci.
Merci Daniel Pénac.
Merci à vous.
Merci à tous d'avoir été présents pour cet hommage. J'ai reçu Bernard Pivot sur la chaîne le 10 avril 2016 dans Remède à la mélancolie et je vous propose pour finir d'écouter une partie de cet entretien qui débuta sur ce que lui évoquait le mot mélancolie.
C'est un des plus jolis mots de la langue française. Alors il désigne quelque chose malheureusement qui est très difficile à supporter pour certaines personnes. Mais moi, ce mot est tellement beau quand j'ai un peu de mélancolie, que je suis un peu triste comme ça, j'ai un peu de vague à l'âme. Alors je me dis... Ah Bernard, tu es mélancolique, tu as de la mélancolie. Et d'un seul coup, je me dis, ce mot est tellement beau qu'il me réconcilie avec le moment que je suis en train de vivre.
Et justement, Bernard Pivot, est-ce que vous êtes un être mélancolique ?
Non, je ne suis pas du tout un être mélancolique, pas du tout. Je peux avoir des accès de mélancolie, mais ils sont assez rares. Et en règle générale, je suis plutôt un homme ouvert à la fantaisie, à l'humour, à la beauté de la littérature, la beauté des textes, la beauté des tableaux, de la nature, des femmes, tout ce que vous voudrez. Donc, si on est attentif à la beauté des choses, bien cela fait reculer la mélancolie.
J'ai revu il n'y a pas longtemps cet extrait d'Apostrophe où vous concluez le numéro en disant « Les écrivains sont de drôles de zig ». Oui. Et on entend sur le côté Roger Perfit ajouter une plaisanterie très égrillarde. Oui. Et à ce moment-là, vous avez un air de sidération totale, mais toujours très cordial. Mais vous étiez vraiment choqué ou vous jouiez un peu ce...
Non, non, parce que c'est la seule fois en 28 ans d'émission en direct où quelqu'un a pris la parole après que... Oui, j'ai dit au revoir. Donc c'était... Alors je termine en disant « Oui, comme vous l'avez vu pendant cette émission, les écrivains sont de drôles de zig. » C'était le titre de l'émission. Et Perfit à ma droite, et ils ont de drôles de zob. Alors, évidemment, je l'ai regardé absolument stupéfait d'abord parce qu'il parlait, il avait voulu parler en dernier. Et puis, deuxièmement, par une phrase quand même qui était un peu assez provocatrice, mais drôle.
Oui, mais c'est l'air que vous prenez qui est très, très drôle.
Oui, oui.
On peut le voir sur YouTube très aisément.
Oui, mais on ne peut pas voir la radio.
Non, mais sur Internet.
J'ai un air à la fois surpris, étonné, mais pas outragé. Non, plutôt un peu amusé.
Oui.
J'avais 17 ou 18 ans, j'ai lu ce livre qui m'a enchanté, il s'intitule Les enfants du bon Dieu, et alors donc j'avais 17 ans, voilà par quoi j'ai commencé. Là où nous habitons, les avenues sont profondes et calmes comme des allées de cimetière. Les chemins qui conduisent de l'école militaire aux invalides semblent s'ouvrir sur des funérailles nationales. Un trottoir à l'ombre, l'autre au soleil, ils s'en vont entre leurs platanes pétrifiés devant deux rangées de façades contenues, sans une boutique, sans un cri. Mais une anxiété frémissante peuple l'air. C'est l'appréhension du son des cloches. Le ciel vole bas sur mon quartier, prématurément vieilli. Et je n'ai que 30 ans et le sang jeune. Ma maison s'élève au carrefour de deux silences. L'absence de sergent de ville ajoute à la distinction du lieu. Voilà, c'est Antoine Blondin. C'est pas mal, hein ?
Oui.
Comment vous trouvez ?
C'était pas mal.
Ah ouais, c'est pas mal, hein ?
Oui.
C'est vous qu'on entend, Bernard Pivot, face au délicieux Antoine Blondin. Il était l'invité d'honneur d'Apostrophe en décembre 1988 à l'occasion de la publication de son œuvre intégrale aux éditions de la Table Ronde. C'est l'auteur de votre remède littéraire et il est paru en 1952, c'est Les enfants du bon Dieu. Est-ce que vous pouvez nous faire une ébauche de l'histoire avant de nous...
Non, mais... Alors, dans les romans de Blondin, il n'y a pas d'histoire. Enfin, je veux dire, l'histoire ne compte pas beaucoup. Ce qui est important dans les livres de Blondin, c'est l'écriture. Il a une écriture... J'aurais aimé recevoir le don d'écrire comme Antoine Blondin. Il y a deux écrivains dont j'envie l'écriture, c'est Antoine Blondin et un écrivain vivant d'aujourd'hui, Gilles Lapouge. Je trouve que c'est deux écritures qui m'auraient bien correspondu. Vous voyez, je dis pas que c'est les meilleurs écrivains du monde, mais je veux dire, ce sont deux écrivains dont je ressens charnellement la qualité du style. Je suis chaque fois émerveillé quand je les lis. En particulier Antoine Blondin. Alors Blondin, dans ses romans, il raconte des histoires très douloureuses.
Oui.
Mais il les raconte d'une manière très gaie.
Avec beaucoup de fantaisie.
Voilà, avec beaucoup de fantaisie. Alors, les enfants du bon Dieu, c'est formidable. Mais vous voulez, je peux en lire un petit morceau ?
Avec plaisir.
Ben, parce que le héros, c'est un professeur d'histoire. Et alors, il revient et voilà, comme il dit, cet après-midi-là, je revenais de l'école plus gravement que d'habitude. j'avais dû soutenir les premiers pas d'Anne d'Autriche à travers une classe déchaînée. La mort de Louis XIII, celle de Richelieu surtout, me privait de cette autorité par procuration qu'imposent les grandes figures de l'histoire. Louis XIV n'avait que 5 ans. Mes élèves en profitaient sans faiblesse. Comme chaque fois, la régence s'annonçait mal. Je n'aime pas ce mois de mars qui ramène simultanément Mazarin et les premières courses cyclistes. C'est un cap délicat à franchir. La fronde couvait sur les derniers bancs. Le petit Minier, fortifié dans sa vocation de cancre officiel par l'absence d'un roi, prenait une influence démesurée sur ses camarades. J'avais bien besoin d'une grande victoire. Malgré leur avancée, je m'étais offert la bataille de Rocroi. Et après, il raconte la bataille de Rocroi à sa manière. C'est magnifique.
Et ce qui est très, très amusant, c'est que ce professeur d'histoire, justement, se lasse un peu de ce qu'il a raconté. Et donc, après, quand il fait ses cours, il change l'histoire totalement.
Bah oui, bien
il
sûr.
Il ne signe pas les traités. Bah oui. Il fait se travestir Louis XIV. Il le fait revenir en Louis XVIII.
Enfin... Oui, mais ça, c'est la fantaisie de Blondin. Il a une grande imagination. Et puis, il avait l'irrespect de l'histoire en étant follement amoureux.
Et en même temps, comme vous dites, ce sont toujours des histoires tristes. Blondin dit de ce roman qu'il est imprégné du désarroi nostalgique devant l'ordre rétabli de la vie quotidienne que les improvisations de la fantaisie n'arrivent pas à conjurer.
Oui, mais il lui dit bien. Alors, en un seul livre, on trouve les romans d'Antoine Blondin, parce qu'il n'a pas écrit beaucoup.
C'est l'édition que j'avais aussi.
Et c'est Renaud Matignon, qui est un ancien critique littéraire du Figaro littéraire, qui a préfacé merveilleusement ses ouvrages de Blondin, et qui termine ainsi notre frivolité profonde dans le livre de bord d'Antoine Blondin, Bréviaire de la catastrophe et visite guidée de l'enchantement. Eh bien, c'est ça. C'est la catastrophe et l'enchantement. Le malheur et la gaieté.
C'est très bien résumé. Dans cette émission, Bernard Pivot, quand vous étiez face à Antoine Blondin était bègue, donc avait cette diction si particulière. Il y a un moment très émouvant où vous lui reprochez son alcoolisme et vous lui dites « Est-ce que vous vous rendez compte qu'en buvant autant, vous nous privez de chefs-d'œuvre, nous, lecteurs, qui vous aimons tant ?» Et il n'entend pas du tout ce que vous dites. Pas du tout.
Mais non, il ne veut pas entendre.
En tout cas, j'encourage tous les auditeurs à lire aussi Un singe en hiver de Blondin et à voir le film merveilleux d'Henri Verneuil avec Gabin et Belmondo. Vous avez un autre conseil de Blondin à lire absolument, Bernard Pivot ?
Ben non, mais tous les romans de Blondin. L'Europe buissonnière, L'humeur vagabonde, Monsieur Jadis ou L'école du soir. Ils sont tous de cette merveilleuse écriture. Moi, ce qui me séduit, c'est pas tellement les histoires, c'est l'écriture.
C'est vrai qu'il a un style d'une délicatesse et d'une sensibilité folle.
Ah, puis d'une fantaisie, c'est drôle. D'ailleurs, je me régalais aussi à lire ses chroniques de L'Équipe pendant le Tour de France.
Mais c'était un grand journaliste sportif.
Il faisait des chroniques merveilleuses.
J'aimerais qu'on parle maintenant, Bernard Pivot, de votre rapport à la littérature, puisque c'est évidemment votre panacée en cas d'humeur noire. À l'époque d'Apostrophe, Bernard Pivot, vous lisiez 10 heures par jour jusqu'à 14 heures la veille de l'émission. Et j'ai lu que vers la fin, ça vous ennuyait un peu, surtout les romans historiques qui étaient trop longs. Oui, est-ce que vous lisez toujours avec la même curiosité aujourd'hui ou est-ce que vous avez parfois des impressions de déjà-vu ?
Je lis toujours avec la même curiosité. À l'Académie Goncourt, vous savez, en juin, juillet, août, il faut pas traîner en route. Il y en a des romans à lire. Donc je les lis avec plaisir. Et puis quand on tombe sur un livre enchanteur, eh bien, on se sent récompensé des efforts qu'on a accomplis, y compris en lisant des livres qui étaient moins intéressants et qui m'ont privé peut-être d'une baignade ou d'une promenade ou d'un déjeuner. J'ai toujours eu le plaisir. Alors c'est vrai qu'à un certain moment, les romans historiques, je trouvais que c'était un peu lourdingue, quoi. Puis finalement, on les oublie 48 heures après, alors que lire des livres d'histoire, quand même, quand on sait que l'historien a fait des recherches très sérieuses pour nous informer de ce qui s'est passé à telle date avec tel personnage, c'est quand même plus rigoureux et plus intéressant. Et plus nourrissant, surtout.
Et pourtant, je me permets de le faire remarquer, dans Les mots de ma vie, vous vous exclamez « putain de livre » en confessant qu'ils vous ont fait négliger vos filles et votre mariage. Est-ce que vous regrettez parfois tout ce temps passé à lire ?
Oui et non. Non, parce que j'ai eu une carrière professionnelle inespérée pour moi, qui n'était pas un grand lecteur quand j'étais jeune, donc inespérée. Et en même temps, c'est vrai que pour réussir chaque numéro d'apostrophe, j'avais l'impression, vous savez, c'est comme un boxeur. J'avais l'impression qu'à chaque émission, je remettais mon titre en jeu. Donc il fallait pas que je rate mon combat. Il fallait que je gagne. Et donc c'était un peu au détriment, c'est vrai, de ma vie de famille, parce que je passais un peu trop de temps à lire les ouvrages que je devais lire, et je n'ai pas lu beaucoup de livres le soir à mes enfants. Voilà, c'est un peu ça. C'est un reproche que je me suis fait, que je me faisais déjà à l'époque, mais comment faire autrement?
Vous caressiez aussi le rêve d'être écrivain. Vous avez écrit un premier roman à 21 ans, L'amour en vogue, et vous dites plus tard dans des interviews: je me suis aperçu que je n'aurais jamais l'étoffe d'un grand romancier et que j'aimais trop la vie pour la sacrifier à l'écriture.
Ah oui.
Mais vous l'avez un peu sacrifié à la littérature.
Oui, mais je l'ai sacrifié d'une autre manière.
Avec beaucoup de plaisir. Mais
quand j'ai dit ça, effectivement, quand j'ai écrit ce premier roman, enfin ce seul et unique roman, il est paru, un éditeur l'a accepté, mais quand même, après, le temps passant, quand je l'ai relu, je me suis dit, finalement, tu n'as pas la tripe d'un romancier, tu n'as pas... Je ne suis pas... Je n'ai pas ce talent-là, loin de là. C'est vrai que, en plus de ça, je me disais, je peux pas... Je vais pas quand même... je sais pas, sacrifier ma vie, ma vie personnelle, ma vie de plaisir, de famille, à une écriture de romans qui n'auront pas beaucoup d'intérêt. Je vais vous dire pourquoi je me suis dit rapidement ça, parce que à Lyon, il y avait, au Progrès de Lyon, où j'ai travaillé pendant un moment, il y avait Bernard Clavel. Et Bernard Clavel gagnait sa vie la nuit. Il était journaliste de nuit au Progrès de Lyon, et la journée, il écrivait ses romans. Je me disais, mais c'est une vie de fou, ça, c'est une vie de fou. Comment peut-il faire ça? Quelle résistance physique, quelle puissance intellectuelle. Et je me suis dit, non, je ne peux pas faire ça. Ou je suis journaliste. Et je me suis dit un jour, il vaut mieux être un bon journaliste qu'un mauvais romancier.
Vous êtes un bon journaliste et un bon lecteur. Et d'ailleurs, dans Les mots de ma vie, toujours à l'article « Sensualité », vous décrivez ce que vous avez aussi recommandé pour cette émission, le fait d'ouvrir les paquets de livres. C'est votre activité consolatoire, Bernard Pivot.
Alors, ben, tous les jours, j'ouvre des paquets de livres qui viennent chez moi. Alors, j'en ai reçu... Mais c'était terrible du temps d'apostrophe. Il y en avait entre 60 et 80 par jour. Donc, je donnais des étrennes considérables à ma concierge. J'ai d'ailleurs invité la dernière d'apostrophe, la concierge, parce que je lui devais bien ça. Elle était tellement dérangée, la pauvre, par les coursiers. Et donc, mais je n'ai jamais laissé à personne le soin d'ouvrir les paquets de livres. Je trouve que c'est un vrai plaisir. C'est, alors vous voyez bien sur le paquet, vous voyez Grasset, Gallimard, Le Seuil, ou Actes Sud, ou Albin Michel. Donc vous savez que, mais vous savez pas quel est le livre qui est à l'intérieur. Donc c'est une surprise chaque fois. Mais oui, c'est une surprise. Et puis, souvent, on ne sait pas. Tiens, je ne savais pas qu'il avait publié un livre. Ou bien, ah, c'est ce livre, je l'attendais. Ça y est, il est arrivé. Et puis, vous ouvrez le livre, vous le cassez, vous regardez la dédicace, vous lisez la quatrième de couverture, vous voyez de quoi il s'agit. Si vous trouvez du plaisir peut-être à entrer tout de suite dedans, ben, je vais m'asseoir et puis je l'ouvre, je commence à le lire, ou bien je vais au milieu. Enfin, voilà, il y a une manière d'entrer dans un livre sur le moment. Il y a des livres qu'on classe, et puis il faut les classer, parce que sinon, si c'est le désordre, on n'y comprendra plus rien. Donc, c'est un vrai plaisir pour moi de saisir, de découvrir le livre, de le saisir, de le sentir, de le humer, de le casser, de le tenir, de le caresser, de commencer à le lire.
C'est un rapport amoureux.
C'est un rapport amoureux.
Vous, Bernard Pivot, vous avez été quelquefois malade d'angoisse avant de rencontrer certains écrivains. Je pense à Duras et Solzhenitsyn.
Bon, je préparais beaucoup, et il fallait que je sois incollable, hein. Donc j'étais surtout inquiet, mais vis-à-vis de moi-même. Je me dis, est-ce que tu seras à la hauteur? Est-ce que tu vas remporter? C'est toujours la métaphore sportive. Est-ce que tu vas remporter le match? Est-ce que tu vas être à la hauteur de l'adversaire? Alors l'adversaire, le partenaire, parce qu'on peut pas considérer l'écrivain que j'allais interviewer comme un adversaire. Je ne suis pas votre adversaire là.
J'espère.
Mais pas du tout. Donc je suis votre partenaire. Mais en même temps, il y a quand même une sorte de concurrence entre les deux qui s'installe, une complémentarité qu'il faut rechercher, et une émission est réussie lorsque cette complémentarité apparaît tout à fait éblouissante aux auditeurs ou aux téléspectateurs.
Sur le toit. toit de l'hôtel où je vis avec toi. Quand j'attends ta venue, mon ami, quand la nuit fait chanter plus fort et mieux que moi tous les chats, tous les chats, tous les chats. Que dit-on sur les toits, que répètent les voix de ces chats qui s'ennuient, des chansons que je sais, que je traduis pour toi. Les voici, les voilà. Le soleil est rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là et le soleil attend. Ici-bas souvent chacun pour sa chacune, chacun doit en faire autant. La lune est là, la lune est là, la lune est là, mais le soleil ne la voit pas. Pour la trouver, il faut la nuit. Pour la nuit, mais le soleil ne le sait pas, et toujours lui. Le soleil est rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là, et le soleil attend. Papa dit qu'il a vu sa lui. Des savants avertis par la pluie et le vent annonçaient un jour la fin du monde. Les journaux commentaient en termes émouvants les avis, les aveux des savants. Bien des gens affolés demandaient aux agents si le monde était pris dans la ronde. C'est alors que docteurs, savants et professeurs entonnèrent subito tous en chœur. Le soleil a rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là, mais le soleil attend. Ici bas, souvent chacun pour sa chacune, chacun doit en faire autant. La lune est là, hein, la lune est là, hein, la lune est là, mais le soleil ne la voit pas. Pour la trouver, hein, il faut la nuit, il faut la nuit, mais le soleil ne le sait pas, et toujours lui. Le soleil rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là, le soleil attend. Papa dit qu'il l'a fait sa vie. Philosophe, écoutez, cette phrase est pour vous. Le bonheur est un astre volage qui s'enfuit à l'appel de bien des rendez-vous. Il s'efface, il se meurt devant nous. Quand on croit qu'il est loin, il est là, tout près de nous. Il voyage, il voyage, il voyage. Puis il part, il revient, il s'en va n'importe où. Cherchez-le, il est un peu partout. Le soleil est rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là et le soleil attend. Ici bas souvent chacun pour sa chacune, chacun doit en faire autant. La lune est là, 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 mais le soleil ne la voit pas. Pour la trouver, il faut la nuit, il faut la nuit, mais le soleil ne le sait pas, et toujours lui. Le soleil rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là, et le soleil attend. Papa dit qu'il l'a vu.
Ah oui. Remède à la mélancolie sur France Inter. On vient d'entendre la chanson qui vous réjouit, Bernard Pivot, que vous mimiez ce fou chantant. C'est Le Soleil et la Lune de Charles Trenet, composé en 1939. Qu'est-ce que ce cabotinage délicieux vous évoque?
Non, mais Charles Trenet, toutes ses chansons sont des remèdes à la mélancolie. Alors là, franchement, là, c'est, vous imaginez, vous l'auriez là, en face de vous, et vous chanterait, vous séduirait par toutes ses chansons. C'était un formidable compositeur. Il était dans la gaieté, dans la joie, dans la poésie. C'est un formidable. Je trouve qu'on entend beaucoup moins aujourd'hui. C'est dommage. Il est un peu passé de mode. Donc, je suis très content que vous me donniez la possibilité de le faire entendre. Mais j'aurais pu choisir bien d'autres chansons de Charles Trenet qui sont aussi joyeuses, aussi inventives et aussi poétiques que celle-ci. C'est un formidable compositeur de chansons et un chanteur délicieux.
On écoute un autre être assez truculent.
Pour moi, là-bas où je suis né, la ville, ou comme en ce moment la France, c'est une chose de couleur, c'est un tableau, c'est une matière avec laquelle nous opérons. Maintenant, comme je suis loin de ma ville natale, il y a déjà 50, 60 ans, et elle est en nous, ces couleurs. Elle s'est mêlée avec la France, avec Paris. C'est une couleur, c'est un bleu, c'est un vert, c'est une rose. Ce sont des lignes en un certain désordre. Ça, c'est Vitebsk, ça, c'est la France.
C'est Chagall qu'on entend parler de sa ville d'origine, Vitebsk, dans l'actuelle Biélorussie, mais c'était intégré à l'Empire russe à l'époque. Et c'est dans le numéro de l'émission Panorama, à l'occasion de ses 80 ans, chez lui à Saint-Paul-de-Vence, on est en 67. Et vous me voyez venir, Bernard Pivot, je voudrais que vous nous parliez du double portrait au verre de vin qu'il a peint vers 1917 oui. Et que vous évoquez dans votre dictionnaire amoureux du vin, à la très sérieuse section glouglou.
Oui, oui, parce que vous m'avez demandé un tableau optimiste. Hein, donc oui. Tout de suite, j'ai pensé à celui-là, parce que je l'avais mis dans mon dictionnaire amoureux du vin. C'est un tableau magnifique. Il est à Beaubourg, et donc tout le monde peut aller le voir. Et d'ailleurs, quand je vais au musée Georges Pompidou, je passe toujours par l'endroit où je peux revoir, et je salue Bella, qui est la femme de Chagall, parce qu'ils sont représentés tous les deux sur ce tableau, c'est-à-dire que Bella est en robe blanche, lui, Chagall, il a une veste rouge, il est sur les épaules rôle de Bella, et lui, il tend un verre de vin rouge, c'est-à-dire qu'il fête un anniversaire, probablement un anniversaire de mariage, et en dessous d'eux, il y a la Dvina, qui est le fleuve qui court dans sa ville natale de Vitebsk.
Et au-dessus, deux anges.
Donc c'est un tableau en hauteur qui est tout en joie, qui est
avec
tout en beauté.
Avec des anges au-dessus du verre de
oui,
vin.
Oui, qui tend le verre de vin. Et on a l'impression qu'il dit à la vôtre, à votre santé, santé, bonheur. Et c'est un tableau donc de à la fois de gaieté, de bonheur et de gourmandise.
Bon, on termine sur ça. Alors, santé, bonheur, Bernard Pivot. Ça vous va ?
Ah oui, santé, bonheur, bien entendu.
Eh ben, merci beaucoup d'être venu dans cette émission.
Merci.
Merci à tous ceux présents ce soir pour cet hommage à Bernard Pivot, Daniel Pénac, Ariane Chemin, Claude Agege et Jean-Paul Dubois. Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas et Joseph Ascal, à la programmation musicale Jean-Baptiste Audibert, à la technique Louis Audebert.